Sur Radio Campus Tour, auditeurs, auditrices, bienvenue dans la Méridienne. Vous êtes sur le 99.5 FM et aujourd'hui nous allons parler de santé dentaire. Peut-être qu'il y a une autre définition pour parler de ça, un peu plus large. Et ça tombe bien parce que notre invité expert dans le domaine va pouvoir nous en dire plus. Bonjour Frédéric Denis.
Bonjour, merci de me recevoir à Radio Campus.
Alors, vous êtes doyen de la faculté d'odontologie de Tours, chef du service de médecine et de chirurgie bucco-dentaire. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Santé publique et directeur adjoint de l'unité de recherche, éducation, éthique et santé de l'Université de Tours. Alors, pour rappel, vous êtes venu déjà dans cette émission en 2022, donc c'était pour annoncer l'ouverture prochaine de la faculté d'odontologie de Tours, donc qui a ouvert, je crois, en septembre 2022. Comment se porte-t-elle ?
Eh bien écoutez, le projet qui est en cours se porte très bien. Nous allons accueillir à la rentrée 2025 des étudiants en deuxième année. Ça sera donc notre troisième, quatrième promotion déjà. Et le nombre va crescendo puisque en 2022, nous avions accueilli une promotion de 22 étudiants. Et désormais, on accueillera une quarantaine d'étudiants qui seront formés pratiquement en totalité à Tours.
Donc ça veut dire que vous avez produit combien de dentistes à Tours ?
Alors pour l'instant, ils sont encore dans leur cursus. Nous aurons, pour être précis, 130 étudiants qui seront inscrits à la faculté d'odontologie de Tours à la rentrée 2025. Et à terme, nous aurons nos premiers diplômés qui le seront en 2027. Donc il faut encore un petit peu patienter pour avoir les premiers dentistes formés dans la faculté d'odontologie de Tours.
Est-ce que ça répond aux objectifs que vous vous étiez fixés en 2022 à l'ouverture de cette faculté ? Est-ce que le nombre d'étudiants est celui attendu ? Est-ce que les études se déroulent comme vous l'aviez imaginé ?
Alors, j'ai envie de vous dire que oui. Notre feuille de route telle qu'on l'avait tracée à l'origine du projet se déroule parfaitement, autant en nombre d'étudiants admis dans le cursus, vous savez qu'ils sont issus de la sélection PASLAS, il y a toujours une inquiétude à savoir si les études dans lesquelles ils vont s'engager seront attractives. Jusqu'à présent, on n'a aucun problème d'attractivité. Toutes les places qui ont été mises à disposition au concours, enfin au concours, c'est un gros mot, hein, puisqu'il n'y a plus de concours maintenant, mais qui ont été rendues disponibles pour pouvoir rentrer dans ce cursus, l'ont toutes été sans aucune difficulté. Et j'ai envie de vous dire qu'il faut être même bien classé pour pouvoir accéder au cursus des études en odontologie.
Donc ça veut dire, hein, pour les esprits chagrin qui penserait que ah bah oui on fait faculté d'odontologie si on n'a pas eu médecine, c'est faux.
Bah écoutez, oui, ça fait partie des représentations qui existent à l'heure d'aujourd'hui, mais qui alors je vais vous le formuler, je dirais autrement. Le métier de chirurgien dentiste est un métier très méconnu, mais qui correspond à un vrai besoin d'abord de santé publique, à un métier très spécifique et par certains aspects revêt beaucoup d'attractivité ou par rapport au métier de médecin, plus largement du métier de médecin. Je vous en donne un seul exemple. Vous rentrez dans les études d'odontologie, vous serez sûr à la fin de votre cursus d'être dentiste. A l'inverse, vous rentrez dans les études de médecine avec l'idée de devenir chirurgien, de devenir neurologue, de devenir diabétologue et autres. Il y a un concours qui s'appelle le concours de l'internat qui fait qu'au final, la raison pour laquelle vous êtes rentré dans ce cursus, dans cette discipline, fait que au final, vous n'exercerez peut-être pas le métier que vous avez envisagé. Ça peut faire naître beaucoup de frustration. Quand vous rentrez dans le métier de chirurgien-dentiste, les choses sont claires. Vous exercerez le métier de chirurgien-dentiste avec la spécificité liée à ce métier, qui est un métier, on va dire, qui s'exerce principalement en libéral, donc dans lequel vous aurez la possibilité soit de vous installer dans une grande ville, soit de vous installer plus en milieu rural et de définir l'exercice que vous souhaiterez avoir plus tard, une fois que vous serez installé, en termes d'horaire, en termes de type de patientèle, en termes de, d'organisation. Donc voilà, c'est un métier qui présente beaucoup d'avantages, avec l'aspect médical, mais aussi cet aspect très, très technique, très chirurgical, voilà, qui permet de mobiliser différentes compétences.
Et puis, on peut continuer à se former peut-être. Est-ce qu'il y a de la formation continue dans ce domaine de compétences ?
Complètement, complètement. Vous savez, depuis, j'ai envie de dire, quelques années, c'est un métier qui bouge énormément. Il a déjà beaucoup bougé depuis une cinquantaine d'années, mais j'ai envie de dire que depuis une dizaine d'années, 10-15 ans maintenant, il évolue encore beaucoup plus avec toutes les technologies numériques qui se mettent en place. Il y a des évolutions notables, notamment sur la réalisation des travaux prothétiques, des réhabilitations prothétiques, qui font que le métier tel qu'il était connu il y a 15-20 ans n'est pratiquement plus le même, ce qui nous engage, nous aussi, en tant qu'enseignants, à revoir beaucoup de nos façons d'enseigner, nos cursus, nos programmes d'enseignement, pour se mettre au goût du jour par rapport aux nouvelles technologies qui se mettent en place.
Et alors, sur des nouvelles technologies, mais est-ce qu'il y a aussi des nouvelles attentes sur les patients ?
Alors là, vous évoquez un autre point qui est celui, une question un peu plus globale, qui est celle de la démographie médicale, dans laquelle, bien évidemment, j'inclus les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, j'ai envie de dire l'ensemble des professionnels de santé, pour laquelle notre région est particulièrement touchée, puisque vous savez qu'en région Centre-Val de Loire, on a un peu moins de 44 chirurgiens-dentistes pour 5000 habitants, alors qu'au niveau national, on observe une proportion de plutôt 67 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants. Donc un problème démographique marqué qui se répercute bien évidemment sur l'offre de soins. Beaucoup d'usagers se retrouvent en situation très difficile pour obtenir un rendez-vous chez le dentiste. Donc la création de cette faculté répond en partie à ce besoin exprimé par les usagers. Et c'est une réponse politique par rapport à ça.
Et alors sur l'idée de soigner les dents, voilà, donc on a aussi évidemment tout ce qui est prévenir on va dire les caries et autres, mais peut-être aussi les préoccupations esthétiques. Donc ça, est-ce que c'est une orientation particulière à ce métier, de se dire d'aller plutôt dans le côté esthétique ?
Alors, je vais vous répondre en vous disant qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression quand on rencontre quelqu'un. Et le sourire est un des éléments qui est fondamental et qui attire l'œil. Donc cet aspect esthétique est fondamental, bien évidemment, dans la prise en compte des besoins des patients. Les patients viennent vous voir parce que leur sourire ne leur convient pas, donc parce qu'une dent n'est pas forcément bien positionnée. Donc l'orthodontie peut répondre à ce besoin. Mais il y a aussi d'autres techniques comme les facettes, les couronnes dentaires céramiques et autres qui peuvent favoriser l'amélioration de l'esthétique d'un sourire, donc de l'estime de soi du patient au final, ce qui est important.
Voilà, donc si je pose cette question, c'était peut-être pour insister aussi sur la dimension, disons, humaine, relationnel de ce métier-là, parce que vous avez mentionné tout l'aspect très technique de chirurgie, le matériel et toutes ces choses-là, les connaissances nécessaires, mais il y a aussi évidemment cette relation avec la patientèle qui est importante.
Alors ce que vous évoquez sur la première partie de votre propos, c'est le savoir-faire. Et un deuxième élément qui est fondamental dans l'enseignement que nous portons, c'est aussi le savoir-être. Le rapport à l'autre, la relation singulière avec le patient, de pouvoir répondre de la meilleure façon possible à ses besoins, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier au-delà de l'aspect technique qui, au final, ne pourra jamais répondre de façon en totalité à une demande de la personne. Donc c'est bien une prise en charge de la personne dans sa globalité qui est importante quand on envisage une approche médicale. Et ce savoir-être, c'est un point important qu'on vise à enseigner dans notre cursus.
Est-ce qu'il y a autant d'étudiants que d'étudiantes ?
Ah, les étudiantes réussissent bien mieux les études de santé que les étudiants. C'est une profession qui se féminise comme l'ensemble des professions médicales. Voilà, donc bravo à l'ensemble de ces nouvelles consoeurs qui, pour des raisons multiples, réussissent mieux les épreuves de sélection pour entrer dans ces cursus.
Ah bon, et pourquoi elles réussissent mieux alors ?
probablement beaucoup plus appliqué, beaucoup plus constante dans les efforts nécessaires pour ingurgiter la masse de connaissances qui est nécessaire pour pouvoir ensuite rentrer dans les études supérieures, enfin l'ensemble du cursus en odontologie. Je pense que l'ensemble de ces parcours médicaux ne nécessite pas des capacités au-dessus de la moyenne en termes intellectuels, mais elle nécessite beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, parce qu'il y a énormément de masse de connaissances à acquérir. Donc, est-ce que les filles sont beaucoup plus enclines à être plus disciplinées par rapport, ou avoir une discipline plus importante qui leur permet de réussir? C'est probablement une des raisons, mais il y en a certainement d'autres.
Attention que nos auditeurs n'interprètent pas mal, parce que là on pourrait entendre faut être plus laborieux que doué. Je suis pas sûre que c'est ce que vous vouliez dire.
Non, c'est pas ça du tout. Être un professionnel de santé sur le long terme, c'est beaucoup de persévérance. Du reste, ce qu'on explique à nos étudiants quand ils rentrent dans ces études, c'est qu'ils devront beaucoup travailler. D'accord ? Beaucoup travailler pendant leurs études. Parce qu'encore une fois, la masse de connaissances à acquérir est importante, donc ça nécessite aussi, au-delà de l'acquisition de ces connaissances, ça nécessite de les synthétiser. Donc capacité de travail importante, capacité de synthèse, et puis de résistance dans le temps, très clairement. Donc il y a des étudiants brillants qui ne se retrouvent pas forcément dans ces études pour ces raisons-là. Alors, ce n'est pas propre aux filles, hein, je vous arrête tout de suite. Hein,
mais, j'ai rien dit.
Mais y a probablement un de ces aspects-là qui rentre en ligne de compte dans le long parcours qui amène à devenir professionnel de santé.
Et puis, dans ce domaine, il y a aussi de la recherche. Pour faire de la recherche en odontologie, vous-même, vous êtes professeur. Du coup, est-ce qu'il y a des thèses à venir, peut-être à l'Université de Tours?
Absolument. Tous nos étudiants, à la fin de leur troisième cycle, devront soutenir une thèse d'exercice, donc sur lesquelles ils pourront s'exprimer, soit sur des travaux de recherche qu'ils pourront mener à titre personnel, soit sur des travaux qui existent déjà au sein de laboratoires avec des chercheurs plus confirmés, faire des travaux aussi de revues littérature. Donc voilà, en réponse à votre question, effectivement, l'ensemble des étudiants, à la fin de leur cursus, c'est une obligation que de devoir soutenir une thèse d'exercice. Et puis, il y a des parcours dits parallèles pour accéder après à des fonctions hospitalo-universitaires qui nécessitent de réaliser tout un parcours scientifique pour pouvoir acquérir un doctorat d'université, voire une habilitation à diriger les recherches pour postuler à des postes hospitalo-universitaires.
Et là, alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les sujets en cours, en fait, sur lesquels travaillent vos étudiants et étudiantes?
Alors, on a une thématique qui est historique, on va dire, à Tours, qui est celle des technologies qui tournent autour des ultrasons. Et cette technologie ultrason a été explorée au sein de la cavité buccale et de ses tissus attenants, donc ce qu'on appelle le parodonte, les tissus de soutien de la dent, la gencive, l'os, le ligament alvéolo-dentaire, donc au-delà de la dent elle-même. Et les technologies ultrasons permettent d'en faire une lecture au même titre que les rayons X. Donc c'est une technologie que nous développons avec un industriel et qui nous permettra peut-être à terme de remplacer les rayons X pour explorer les tissus dentaires. Donc ça, c'est un axe fort de recherche que l'on développe au sein de notre UFR. Il y en a un deuxième qui est celui de l'imagerie 3D, de l'usinage de matériaux dentaires et le développement de nouveaux matériaux dentaires. Et on a de fortes collaborations, notamment avec Polytech, concernant ces projets de recherche. Un exemple, vous avez une prothèse dentaire qui autrefois était faite par des techniques de coulage qui étaient très proches des techniques qui sont utilisées, par exemple, en bijouterie. Maintenant, on utilise des imprimantes 3D pour réaliser des prothèses dentaires Et ça ouvre la voie aussi à une révision complète des parcours de soins des patients, puisqu'autrefois, il fallait plusieurs rendez-vous pour pouvoir faire une prothèse dentaire. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec les techniques d'impression 3D, en une séance pratiquement, donc une demi-journée, le patient peut avoir sa réhabilitation prothétique. Donc c'est une révolution complète de l'exercice que j'évoquais précédemment dans mon propos et qui va changer profondément la façon d'exercer ce métier. Ça a aussi des impacts en termes d'organisation des soins. Vous imaginez bien que réduire le nombre de rendez-vous pour les patients, ça a un impact aussi direct pour améliorer le nombre de prise en charge dans le futur. Donc c'est une façon aussi, quand on pousse cette réflexion, de favoriser ou d'augmenter ou de contribuer à la réduction des déficits de prise en charge et à la réduction de la pénurie de l'offre de soins.
Et ça veut dire qu'il y a d'autres métiers parallèles qui vont devoir se réinventer, je pense aux prothésistes dentaires.
Alors, c'est déjà le cas. Hein. Les prothésistes maîtrisent très très bien ces nouvelles technologies en pratique courante. Vous savez que maintenant, les empreintes, elles sont faites par des images numériques, elles sont transférées par le biais du web. Les empreintes que l'on connaissait par le passé, qui étaient réalisées avec des pattes à empreintes plus ou moins agréables pour le patient, commencent maintenant à être supplantées de plus en plus par les empreintes numériques, où il y a des progrès considérables qui sont faits. Je vous parlais aussi de l'imagerie ultrason, ça fait partie de l'ensemble de ces projets dans lesquels s'inscrivent ces nouvelles technologies, quoi.
Bon, ça fait rêver, en tout cas, tous ces nouveaux outils. Et peut-être que ça rassure certains auditeurs et auditrices de dire fini la patte dentaire et les différents essais et tâtonnements jusqu'à avoir son chemin de fer ou autre. Je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission. Et puis après, on pourra se pencher sur une actualité de votre profession. Voilà, une possible feuille de route santé bucco-dentaire, voilà, qui devrait apparaître en 2025, puisque vous faisiez partie d'un groupe de travail, vous dirigiez même un groupe de travail sur la santé bucco-dentaire. On se retrouve donc après cette pause musicale, c'est Henri Salvador et Ray Charles, le blues du dentiste.
All right. Let me hear. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents, oh là là. Sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand, oh. Mes dentistes sont en état et il pourra m'arranger ça. When I got to the office, I sat down in the chair. The dentist came in and said, "Boy, let me see what we got here." Open up your mouth there. And then he started to drill. And then he had the nerve to tell me, "Now, can't you keep still? I want y'all to know. Devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh, oh, oh. J'ai l'équipole en fromage blanc. Alors, mais ce que je peux faire, ouf, il fait déjà sauter droit. I said, "Mr. Dennis, please let me go home. Something going on here. I know it's got to be wrong. Oh, I don't know what I'm gonna do. But I wanna tell you, I'm scared of you." Ah, Mr. Dennis, tell me what you gonna do to me. réveiller la veille. Ce salaud me fauche toute mon oseille et me refile 50 manettes. Oh, maman. Et il ajoute en rigolant. Je suis plombier, entre voisins vont s'entraider. Hey, et moi je gueule,
ah, non, non.
Le mousse ah, du temps qui dans le vent. Maintenant j'ai plus de dos, je me demande qu'est-ce que j'ai raconté à ma pépé, mon pote.
Nous voici de retour sur vos ondes, auditeurs, auditrices, 99.5 FM, c'est la Méridienne, avec moi en studio Frédéric Denis, doyen de la faculté d'odontologie de Tours. Alors, nous parlions de la faculté d'odontologie de Tours qui se porte à merveille et il se trouve eh bien, que vous dirigiez un groupe de travail sur la santé bucco-dentaire. Voilà, parce qu'un constat avait été fait qu'il n'existait pas de stratégie ou de plan de santé publique en santé orale en France. Et donc vous avez pu diriger ce groupe de travail. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus ?
Avec plaisir. Alors, ce groupe de travail a eu pour initiative une autosaisine de la Conférence nationale de santé qui s'est doublée d'une saisine de la Direction générale de la santé. Et le président de la Conférence nationale de santé, le professeur Emmanuel Ruche, m'a donné cette mission de diriger un groupe de travail pour, avec comme recommandation de faire des propositions dans un objectif opérationnel sur comment répondre à l'amélioration de la prise en charge des patients, comment améliorer aussi le positionnement des patients dans les décisions en santé, puisque vous savez que la Conférence nationale de santé est un organisme de démocratie en santé qui est placé directement auprès du ministère de la Santé. Et dans cette démarche de revisiter un petit peu l'ensemble des acteurs du monde de la santé bucco-dentaire, donc aussi bien donc les professionnels, mais aussi les organismes de tutelle et aussi les usagers, pour collectivement se dire, voilà, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer par rapport à la santé bucco-dentaire, qui reste encore, par certains côtés, dans le cas de la santé bucco-dentaire, il y a encore beaucoup d'angles morts concernant cette discipline, et notamment dans les politiques de santé actuellement en France. Donc voilà, c'est un travail qui a été mené pendant plus d'un an et pour lequel on a remis le rapport auprès de la Conférence nationale de santé, de la Direction générale de la santé. Et ce rapport a été aussi transmis au ministre de la Santé, qui en a accusé réception.
Bien, et quelles étaient vos conclusions alors ?
Alors, plus que des conclusions, des recommandations qui vont dans le sens que pour être efficace, il faut que l'on puisse avoir une vraie politique de santé publique en santé bucco-dentaire. Ça va dans le sens du reste des engagements qui ont été donnés par l'OMS dans son plan d'action mondial pour la santé bucco-dentaire 2023-2030. Qui préconise à ce que la santé bucco-dentaire soit beaucoup plus visible dans les politiques de santé en France et que chaque État s'engage à mettre en avant cette problématique de santé sur l'ensemble de ses dispositifs qu'elle met à disposition pour la santé. Et tout ça, ça a été conclu en fait à la fin de l'année 2024 par la déclaration de Bangkok qui dit que maintenant il ne peut plus y avoir de santé sans santé bucco-dentaire. Donc c'est un engagement fort au niveau mondial de l'ensemble des acteurs de la santé. Et donc ce rapport visait à finalement faire un état des lieux en France et de voir quelles pouvaient en être les déclinaisons de ces recommandations au niveau national. Alors, une première recommandation, on va dire, et serait celle de pouvoir avoir un portage politique fort au travers de la nomination d'un délégué ministériel à la santé bucco-dentaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut une incarnation en fait de ce projet, une incarnation de cette feuille de route et quelqu'un qui puisse porter la feuille de route au niveau des différents ministères, au niveau des différentes instances et aussi le décliner au niveau régional, notamment au niveau des ARS. Donc ça, c'est une première recommandation. C'est d'aller aussi vers la promotion d'exercices coordonnés en France. On est chirurgien dentiste, on est médecin et on est infirmière, pharmacien. On ne travaille pas forcément ensemble. Il est important que l'on puisse décloisonner, déverrouiller un petit peu l'organisation d'une part des études, mais du système de santé en règle générale, pour favoriser l'inter- et la transprofessionnalité au bénéfice des usagers, bien évidemment. Et puis, un domaine qui n'est pas suffisamment exploré en France, qui est celui de la prévention, de la promotion de la santé. On a un système de santé qui est très axé sur le curatif. Je veux dire autrement, vous êtes un bon professionnel de santé si vous êtes capable de faire des actes techniques qui se valorisent. Et tout ce qui est prévention, ça passe un petit peu sous les radars. Et donc, la prévention en France n'est pas faite comme elle devrait l'être. Or, la santé bucco-dentaire, les problématiques bucco-dentaires sont des maladies non transmissibles et avec de la prévention, ça fonctionne. Voilà. Donc, un autre aspect aussi de ces recommandations, c'est plus de démocratie sanitaire. Les usagers, les patients ont des choses intéressantes à dire de leur propre point de vue pour améliorer leur santé. Et c'est important que ces points de vue puissent être entendus dans les organismes décisionnaires, dans la construction de programmes de prévention qui les impactent pour les améliorer et avoir plus d'adhésion sur ces pratiques. Et puis, bon, c'est aussi revisiter un petit peu le 100% santé, même si il y a une bonne intention derrière ce 100% santé, il y a aussi des améliorations à faire, il y a des angles morts par rapport à ça. Mieux maîtriser aussi les dépassements d'honoraires. Dans l'esprit des gens, les soins dentaires coûtent cher. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour essayer de mettre les soins dentaires en termes de prise en charge au niveau de tous. Et puis, on va dire un engagement un peu plus global qui serait celui aussi, qui est dans un objectif de prévention, de taxer les sucres qui sont cariogènes, qui favorisent aussi l'obésité, qui favorisent aussi les maladies diabétiques. Et cette taxation auprès des industriels, ce serait une partie de ces recettes qui permettrait aussi de déployer ces programmes de promotion et de prévention de la santé. Donc voilà, des mesures phares que je viens de vous décliner. Il y en a 44 autres sur l'ensemble d'un rapport qui fait plus de 100 pages et qui est disponible sur le site du ministère, donc il peut alimenter le débat public.
Alors vous dites, dans l'esprit des gens, c'est cher les soins dentaires, mais est-ce que c'est faux? Ou alors est-ce que c'est parce que les personnes qui ont besoin de ces soins dentaires, c'est des personnes qui ont des revenus, disons, limités?
Les soins dentaires coûtent cher parce que les technologies mises en place sont onéreuses. On a parlé dans la première partie d'émission de cette émission des différents dispositifs qui, notamment en termes de prothèses, d'usinage, de confection des prothèses, nécessitaient des technologies onéreuses. Donc il y a une répercussion en termes de coûts. Le professionnel libéral est aussi gestionnaire de sa structure. Il doit aussi répercuter ses coûts en termes de stérilisation. Les cabinets dentaires maintenant sont parfaitement équipés pour gérer toute la chaîne de stérilisation. Il y a aussi une organisation à mettre en place, du personnel. Donc il y a forcément un coût qui est à répercuter sur les soins dentaires. Donc les soins dentaires sont onéreux parce que derrière il y a un ensemble d'éléments qui font que la production finale a forcément un coût élevé. Alors les soins dentaires coûtent cher parce que derrière ils ne sont pas suffisamment remboursés. Voilà, c'est surtout ça, et qu'il y a des restes à charge nombreux auprès des usagers. Une intervention de chirurgie cardiaque coûte aussi très cher, d'accord ? Pour autant, c'est pratiquement neutre pour le patient, parce que derrière, c'est pris en charge en totalité. Donc il y a des questions aussi de priorité. Et c'est en ce sens que je vous disais que des politiques de santé bucco-dentaire doivent aussi tenir compte de certaines priorisations qu'on pourra faire. Donc les soins dentaires ont un coût, mais ils doivent être remboursés au niveau du coût qu'ils génèrent. D'accord. Enfin, je ne sais pas si j'ai été suffisamment précis par rapport à votre question.
Oui, oui, on vous entend. Mais alors, par contre, j'insiste sur la dimension socio-économique. De dire, est-ce que sur les maladies dentaires, bucco-dentaires, est-ce que les publics les moins favorisés sont plus touchés ?
Absolument. C'est un élément aussi qu'on a pointé dans ce rapport. Les plus touchés ou marqués socialement sont aussi les personnes qui ont une santé bucco-dentaire la plus dégradée. La santé bucco-dentaire est un marqueur social, très clairement. Donc, énormément d'efforts à faire en direction de ces populations. Vous parlez là des 5% de la population qui échappe au système de santé. Donc, il y a effectivement des efforts à faire importants en termes de prise en charge des soins, en termes d'accessibilité aux soins, en termes de modification de représentation sur la santé bucco-dentaire dans ces populations mêmes. Vous savez, l'examen MT-dent, qui est un examen intéressant puisqu'il permet la prise en charge, un dépistage et une prise en charge des soins dans certaines catégories d'âge. Cet examen, vous le recevez dans votre boîte aux lettres si vous avez des enfants qui sont dans ces catégories d'âge et vous incite à aller voir un chirurgien dentiste. La plupart de ceux qui reçoivent cet examen, ce sont ceux et qui vont chez le chirurgien dentiste derrière, ce sont déjà les personnes qui se font soigner régulièrement. Les personnes qui en auraient besoin n'en trouvent pas forcément l'intérêt et n'engagent pas forcément des visites chez le dentiste, alors même qu'ils ont reçu aussi cet examen gratuit. Donc, le problème est beaucoup plus profond que cette problématique aussi d'avoir des éléments engageants pour aller aux soins. Il y a aussi des comportements, des représentations à changer au sein de ces populations précarisées.
Est-ce que la honte peut être un élément aussi qui empêche certaines de ces personnes d'aller justement trouver des dentistes ?
Peut-être, mais moi, si je me réfère aux besoins fondamentaux d'une personne, vous savez, déjà, la première des priorités, c'est d'avoir un toit sur la tête, de se nourrir correctement à peu près tous les jours, et prendre soin de sa santé, ça arrive très tardivement après dans les besoins fondamentaux. Hein. Donc, voilà, les problématiques de soins rejoignent aussi des problématiques sociales. Donc, c'est plus complexe que ce qu'il n'y paraît que de dire, voilà, c'est gratuit, allez-y. Même si faciliter l'accès aux soins, les parcours de soins sont des éléments aussi qui sont déterminants. Prendre un rendez-vous chez le dentiste, faire valoir ses droits, ou connaître ses droits, c'est pas non plus forcément aussi facile que ça, d'autant plus que vous avez aussi toute la barrière liée à l'utilisation Internet et autres, qui n'est pas forcément facile. Les ruptures numériques, ça existe, notamment sur les territoires un peu plus, les territoires les plus défavorisés. Après, c'est aussi un des problèmes de santé. Quand on parle des problèmes de santé, on a toujours tendance à ramener ces problématiques à un manque de professionnels de santé. C'est pas uniquement ça. Il y a aussi l'accessibilité, il y a aussi la faire valoir ses droits. Donc il y a aussi de nombreux éléments qui rentrent en ligne de compte.
Et un cabinet dentaire mobile alors qui pourrait se déplacer, je sais pas, sur les marchés. On retombe dans l'imaginaire sur l'arracheur de dents, pardon, hein, mais c'est-à-dire justement un dentiste bus, quelque chose comme ça.
Alors ça existe dans certaines régions, des bus itinérants pour prendre en charge les patients. Alors c'est des bonnes initiatives. À titre personnel, vous avez compris, j'ai une vision beaucoup plus macro de la problématique. C'est un petit peu là ces solutions à mes yeux, hein, sans critiquer les initiatives que je trouve en tous les cas très bien. C'est des politiques d'aller vers, hein, que je soutiens bien évidemment, mais pour moi c'est un petit peu un sparadrap qu'on met sur une plaie qui est en train de saigner, quoi. Donc il faut d'abord cautériser pour pouvoir être efficace. Donc il faut réformer ou avoir une politique ambitieuse en termes de politique de santé bucco-dentaire. C'est en fait en creux tout ce qui est dit dans notre rapport.
Et d'ailleurs, moi, j'insiste aussi sur cette idée d'avoir des dents en mauvais état. Ça pose problème, c'est des problèmes en cascade. Parce qu'on peut dire, finalement, c'est difficile de s'alimenter quand on a mal aux dents ou qu'on n'a plus de dents. finalement, c'est difficile aussi de parler. Donc, pour avoir des problèmes, on peut avoir des problèmes d'élocution. Donc, c'est pas facile d'échanger avec les autres. Vous disiez aussi au début de cette émission sur le côté esthétique. Finalement, comment on se présente aux autres personnes. Donc, ça peut être aussi gênant de se dire, bah tiens, j'ai un sourire délabré. Du coup, ça atteint plein de dimensions. Et puis, on peut penser aussi, évidemment, là, vous pourrez compléter mieux que moi sur tout ce qui est les problèmes de surinfection, de se dire, bah une dent qui n'est pas soignée. Finalement, est-ce que ça n'entraîne pas des problèmes encore plus graves ?
Déclaration de Bangkok, fin novembre 2024, il ne peut plus y avoir de santé sans santé bucco-dentaire. Une dent mal soignée, c'est des douleurs, ça impacte la qualité de vie, vous l'avez rappelé, des problèmes de mastication, des problèmes de digestion. La maladie parodontale, le parodonte, qui sont les tissus de soutien de la dent, la gencive, l'os, etc., qui sont atteints par une maladie, la maladie parodontale, qui est une maladie inflammatoire systémique, qui va avoir de nombreuses répercussions sur l'ensemble du corps, avec des répercussions au niveau cardiovasculaire, des répercussions au niveau rénal, des répercussions au niveau sur les maladies rhumatismales, etc., etc., etc. Donc, vous voyez bien l'impact que peut avoir une mauvaise santé bucco-dentaire ou des dents, voire une bouche mal entretenue, sur la santé générale. Donc, bien évidemment aussi, on ne peut pas concevoir une dent. La bouche fait partie d'une partie du corps maltraitée, mal soignée. Encore une fois, elle n'est pas dissociée de l'ensemble du corps. On a en France encore trop tendance à saucissonner l'ensemble du corps et à travailler en silo. C'est vraiment une volonté au travers de ce rapport aussi de remettre toutes ces questions au centre de la table et de positionner l'usager au sein des besoins et de ce dispositif de prise en charge.
Alors vous avez mentionné aussi la possibilité de taxer certains industriels qui abusent peut-être un peu du sucre dans leurs produits. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose du coup sur l'industrie du tabac ou de l'alcool ?
Parfaitement, c'est exactement la même problématique. On a parlé du sucre, mais le tabac c'est aussi, a aussi des effets délétères sur la santé bucco-dentaire, comme l'alcool, donc c'est bien sûr, mais après vous vous heurtez à l'ensemble des lobbies qui n'iront pas dans ce sens. C'est pour ça qu'il faut un portage politique fort sur cette possible feuille de route qu'on attend de tout cœur pour l'automne 2025.
Et alors, vous sentez les politiques décidées à suivre ce chemin ou, disons, plus hésitants ?
Alors, déjà, le fait que la Conférence nationale de santé s'autosaisisse de cette problématique et que derrière, la Direction générale de la santé souhaitait aussi une saisine est déjà un acte fort en termes de volonté. Le rapport a été très bien accueilli par la Direction générale de la santé et son directeur, qui était à l'époque Grégory Emery. Maintenant, vous connaissez le contexte politique et sa fragilité. On verra comment ces recommandations se mettent en œuvre et si la feuille de route arrive comme elle a été annoncée en début d'année.
Vous pensez qu'on pourrait vous dire que ce n'est pas le moment ?
J'espère pas. Il est urgent d'agir sur ces problématiques. Encore une fois, les politiques de santé en France visent à chaque fois à écoper un problème ou un bateau qui prend l'eau. Mais on ne se pose jamais la question de est-ce qu'il ne faudrait pas remettre tout à plat et puis faire autrement. Il y a d'autres pays qui, en dépensant moins d'argent, ont parfois de meilleurs résultats sur la prise en charge de leurs concitoyens.
Par exemple ?
Les pays nordiques qui sont très, très proactifs sur les questions de promotion de la santé, notamment dans le domaine bucco-dentaire.
Voilà, c'est dit. Eh bien, je vous propose de faire une seconde pause musicale dans cette émission. Frédéric Denis, merci à vous d'être ici dans notre studio. Et après cela, eh bien, on se penchera sur le tourisme dentaire. Et oui, l'été approche, alors peut-être que certains et certaines d'entre vous commencent à se demander tiens, s'ils n'iraient pas faire un petit voyage en Turquie, par exemple, ou ailleurs, pour prendre soin de leurs dents. On va écouter la musique des Dents de la Mer. On se retrouve tout de suite après. nous voici de retour sur Radio Campus Tours. Alors, auditeurs, auditrices, vous avez sans doute reconnu le thème des Dents de la Mer. Et c'était joué par l'orchestre d'Hollywood Pictures. Pardon pour mon excellent accent. Voilà. Personne n'est parfait. Mon invité dans ce studio, c'est toujours le professeur Frédéric Denis. Donc voilà, vous êtes le doyen de la faculté d'odontologie de Tours. Et puis, on en sait déjà plus sur la faculté, sur une possible feuille de route santé bucco-dentaire en 2025. Et maintenant, on va se pencher sur ce qu'on appelle le tourisme dentaire. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que professionnel de ce domaine, vous aimeriez en dire ? Le tourisme dentaire, c'est pour qui ? Ça emmène les gens où ? Donc, c'est pour quoi faire ?
Alors, le tourisme dentaire, bon, j'en suis pas forcément le spécialiste, donc je vais vous répondre d'une façon beaucoup plus... peut-être avec un point de vue plus personnel sur la question. Des réflexions déjà sur le tourisme dentaire me viennent à l'esprit en vous disant que certains usagers vont chercher des prestations dans des pays autres que la France, qu'on pourra citer éventuellement, mais sans être exhaustif, bien évidemment, des prestations de soins qu'elle va trouver, on va dire, meilleur marché ailleurs qu'en France. Je pense que la motivation des usagers, elle est essentiellement là. Un exemple, vous avez 3 ou 4 implants dentaires à vous faire poser en France. C'est une prestation qui reste très peu prise en charge par les couvertures sociales. Donc, l'usager va chercher, meilleur marché, une prestation qu'il considère, et je dis bien qu'il considère à l'identique de ce qu'il pourrait trouver en France. Et là, je pense que le sujet commence à devenir intéressant lorsqu'on pointe cette notion de possiblement devenir identique à ce que l'on trouve en France. Alors, est-ce que c'est à l'identique ? Dans certaines officines à l'étranger, j'ai envie de vous dire que oui, certaines structures répondent aux exigences internationales en termes de normes de stérilisation, en termes de normes de traçabilité que l'on peut retrouver à l'identique dans les cabinets en France. D'autres, certainement pas. Et puis, moi, dans ces pratiques, je trouve, je pointe certaines difficultés. C'est la barrière de la langue. Quand on va chez un médecin, un chirurgien dentiste, on aime quand même bien avoir des informations sur le traitement qu'on va recevoir, la façon potentielle des risques qui peuvent être engendrés par les actes qui vont être réalisés. Et puis derrière, qu'est-ce que je fais si j'ai un souci avec les prestations qui ont été réalisées, si je me trouve en France et que la prestation a été réalisée en Hongrie, en Turquie, en Malaisie et autres. Donc, vous voyez, une fois qu'on présente les questions sous cet angle-là, il y a des aspects beaucoup plus éthiques qui rentrent en ligne de compte et qui m'interpellent à titre personnel. C'est toute la question aussi de la financiarisation des sujets de santé ou des prestations de soins qui peuvent être réalisées.
Et alors, ce tourisme dentaire, est-ce que ça apparaît d'une façon ou d'une autre dans le rapport que vous avez rédigé ?
Alors, les questions de financiarisation ont été traitées dans ce rapport et elles ont été évoquées pas forcément sous l'angle du tourisme dentaire, mais sur les questions, de sélection de certains actes au profit d'autres, des actes plus rémunérateurs au profit d'autres, d'organisations qui se structurent. Je parle de la France, pour créer des réseaux de soins qui, à la tête de ces officines, se retrouvent potentiellement des fonds de pension ou des investisseurs, des gros investisseurs avec des moyens importants. Une fois qu'on a dit ça, vous savez très bien que l'investisseur, ce qu'il veut derrière, c'est un retour sur investissement et des dividendes. Donc je m'interroge encore une fois, et là c'est des questions ouvertes qui mériteraient un débat approfondi, sur... À partir du moment où vous êtes chirurgien dentiste dans un cabinet qui est dirigé par une personne, chirurgien dentiste ou non, ce n'est pas la question, mais pour lesquels des intérêts financiers priment, je m'interroge énormément sur, derrière, est-ce que des soins ne sont pas priorisés aux dépens d'autres ? Voilà, ça c'est une question qui me pose énormément de problèmes et qui a été soulevé effectivement dans ce rapport. Voilà, donc après, je passe sous silence, hein, ce n'est pas l'objet de ce propos, les affaires d'Antexia, etc., etc., qui sont aussi en lien probablement avec la question que vous m'avez posée, mais on pourra reparler si vous voulez.
Pourquoi pas ? Et alors, est-ce qu'il existe un ordre des dentistes ?
Bien sûr, il existe des ordres départementaux. Chaque département a une organisation ordinale pour gérer la profession. Il y a une organisation régionale qui, elle, a plus une vocation plus judiciaire, on va dire, dans l'organisation des conflits qu'il peut y avoir. Et puis, une instance suprême qui est l'Ordre national des chirurgiens dentistes.
Et alors, est-ce qu'un dentiste ou une dentiste peut être exclu de la profession il s'avère que cette personne fait ce que vous disiez, de la profitation, mais en tout cas tarifie des choses soit trop chères, soit sélectionne un peu ses patients en fonction de divers critères.
Alors la question posée comme ça, il faudrait dérouler beaucoup plus, hein, mais l'ordre est très attentif en tous les cas au respect du code de déontologie. Donc le code de déontologie se décline sous plusieurs aspects et la prise en charge du patient en lui prodiguer les soins, les conformes aux données acquises de la science avec probité, etc., sont des ensembles d'éléments qui sont pris en compte dans les fonctions des conseils de l'ordre. Voilà, la profession est très attentive à ce qui l'ensemble de ses adhérents, enfin des confrères, respectent le code de déontologie. C'est aussi enseigné à la faculté, très tôt à nos étudiants, ce code de déontologie. Certains assimilent le cabinet dentaire à une entreprise, c'est une notion que je réfute. Un cabinet dentaire n'est pas une entreprise, c'est une structure libérale, un exercice libéral n'est pas une entreprise, ce n'est pas une entreprise, c'est un exercice libéral, ce n'est pas un commerce non plus, voilà. Donc c'est des notions qui doivent être assimilées très tôt pour pouvoir exercer ce métier d'une façon humaniste auprès des usagers.
Donc on n'essaie pas de faire le plus de dents de sagesse possible.
Alors, de vous à moi, c'est pas avec les dents de sagesse que les dentistes s'enrichissent.
J'imagine, mais bon, c'est un exemple comme un autre.
Même si Jean Carmet disait que la dent de sagesse est un cadeau du bon Dieu pour le dentiste.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une vigilance sur, disons, les soins, entre guillemets, inutiles.
Complètement. Vous avez un aspect de la prévention qu'on appelle la prévention quaternaire. C'est la prévention des actes qui n'auraient pas dû être réalisés et qui peuvent causer préjudice aux patients potentiellement.
Et une dernière question, est-ce que les dents en or ont toujours le vent en poupe?
Alors, vous savez pourquoi on utilisait l'or autrefois?
Non, mais vous allez nous le dire.
Alors, l'or, c'est un matériau qui a la particularité d'avoir des propriétés en termes de biocompatibilité, de pérennité dans le temps, très élevées. Vous savez que la bouche est un milieu très difficile, en fait, pour les matériaux, hein, parce que très agressif, des températures qui peuvent être d'une grande variabilité, la présence dans une structure qui baigne de microbes. Donc, il faut des matériaux résistants. L'or est un matériau, de ce point de vue, très efficace en termes de biocompatibilité. Et l'or a une certaine matabilité, c'est-à-dire qu'il correspond, quand on appuie, quand on ferme sur la bouche, quelque chose de très confortable. Donc, c'est un matériau de choix pour la réalisation des prothèses dentaires. Maintenant, l'or coûte cher, donc l'or a été remplacé par d'autres matériaux, notamment plus esthétiques, comme les céramiques dentaires. Pour autant, ça reste un matériau qui a des propriétés très intéressantes.
Et bien voilà, après on peut faire un clin d'œil aussi aux râpeurs, hein, qui se mettent... Alors là, c'est pas vraiment c'est amovible, oui. Ce qu'on appelle les grills, donc là on peut les enlever. Et ça alors, comment on prend soin de ses dents si on veut utiliser ce genre de bijoux finalement?
Alors, ça c'est l'utilisation de couronnes, qu'elles soient en or, enfin elles sont surtout en or pour dans un but esthétique ou pour pouvoir s'assimiler à un groupe, vous avez parlé des rappeurs, enfin bon, peu importe. Donc ça nécessite qu'un chirurgien dentiste, un professionnel de l'art dentaire puisse confectionner ce type de prothèse, faire attention à ce que ça puisse être réalisé sans abîmer l'organe dentaire ou à minima, et que ça ne crée pas plus de préjudice que le bénéfice attendu en termes esthétiques.
Voilà, donc on ne commande pas des grills sur n'importe quel site internet à des prix défiant toute concurrence.
De préférence.
Merci à vous d'être venu dans cette méridienne. Donc cette émission
merci à vous.
Touche déjà à sa fin. Est-ce que vous voudriez nous dire un mot peut-être sur la revue dont vous êtes le rédacteur en chef, la revue Santé publique? Alors qu'est-ce qu'on trouvera dans le prochain numéro?
Alors, la revue de santé publique est une revue qui est adossée à la Société française de santé publique. La revue de santé publique est l'organe de communication de cette société savante. Et cette revue que j'ai l'honneur de diriger propose à son lectorat un ensemble de sujets sur la santé publique. La santé publique est un domaine très vaste qui touche tous les domaines. C'est une revue scientifique, c'est une revue indexée, notamment au niveau PubMed, et c'est une revue qui a un large auditoriat. C'est une revue francophone, il faut le souligner aussi. Je vais me rendre début juillet à Beyrouth, si les événements politiques le permettent, notamment pour participer aux universités d'été de la francophonie, où des rédacteurs en chef de revues francophones vont aider des doctorants à leur donner les clés pour pouvoir publier dans des revues scientifiques. Donc voilà, le périmètre de notre revue, c'est de se situer dans la production des savoirs en santé publique. La santé publique est un domaine très vaste hein, qui va de la prévention, de la promotion de la santé, des expérimentations qui se font aussi sur le terrain, aussi aux données épidémiologiques que l'on peut collecter. Donc on va contribuer à faire émerger le savoir scientifique dans le champ de la santé publique, mais aussi dans le domaine de la francophonie. Vous savez que l'anglais prédomine hein, dans la culture scientifique, et cette revue se bat avec d'autres pour continuer à ce que des productions scientifiques puissent émerger en français.
Alors rendez-vous à l'Université Saint-Joseph.
Exactement. Ça sera la troisième semaine de juillet.
Merci. Je pourrais mettre les liens vers cette revue dans le podcast de cette émission. Et donc là, j'imagine que vous avez les résultats Parcoursup pour votre prochaine promotion.
Absolument. Donc on commence à avoir les premiers résultats. Donc on a eu les résultats des grands admissibles issus de la sélection PASS-LAS. Donc on a rempli toutes les places qu'on avait disponibles. Et on attend maintenant le deuxième tour avec le passage des oraux qui auront lieu la semaine prochaine.
Merci à nouveau Frédéric Denis, doyen de la faculté d'odontologie de Tours, d'être venu dans cette émission La Méridienne. Allez, on va se quitter en musique, on va écouter La Fée des Dents de Annie Broccoli, petite chanson pour le jeune public, voilà, parce qu'on ne l'oublie pas non plus sur nos ondes. Merci à vous.
Merci à vous, merci.
Et bonne journée à nos auditeurs et à nos auditrices.
Je sais où demeure la fée des dents. Je l'ai vue qui sortait de chez elle, bien installée sur son oreiller blanc.